Salut, c'est Steven Jambot de l'Atelier des médias. Je vous emmène à Dakar, au Sénégal. Comme chaque semaine, on est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous avez la bonne idée de m'écouter en podcast. Tout à l'heure, j'irai rencontrer le directeur d'une des écoles de journalisme les plus renommées du Sénégal, j'ai nommé l'EGICOM. Mais là, tout de suite, je suis dans le nord de la capitale sénégalaise, dans un quartier qu'on appelle Parcelle Assénie. J'ai rendez-vous avec Moussa Ngom. Il est journaliste et c'est le fondateur de la Maison des Reporters. La Maison des Reporters, c'est un site d'information indépendant proposant des enquêtes et des reportages sur les questions de société au Sénégal, en français et en wolof. Bonjour Moussa, comment ça va?
Bonjour Steven, je vais bien et vous?
Ça va. Où est-ce qu'on est ici là?
On est dans la maison des reporters ici au Parcelle Assénie.
Alors là, j'ai cru comprendre que c'est bientôt les anciens locaux puisque vous allez déménager.
Oui voilà, nous avons déménagé il y a peu à Kër Moussa pour avoir un peu plus d'espace et un peu plus de calme pour nous consacrer à notre travail. Donc bienvenue dans nos locaux provisoires.
Allez, on entre, je vous suis. Une télé, des canapés, des ordinateurs. On est bien dans une rédaction ici.
Avec tout le désordre qui va avec. Donc là, il y a Souleyman Diassi. C'est un membre de la Maison des Reporters. Je dirais aussi que c'est le coordinateur adjoint de la Maison des Reporters. Et ça, c'est Salou Monteur, Community Manager. Et pour le reste des membres, ils sont plus dans le virtuel. Donc ce sont des membres qui sont éparpillés à travers le Sénégal. Et on reste en contract. On a été en télétravail bien avant la pandémie, donc voilà. C'est ça, la maison des reporters.
L'atelier des médias.
La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en novembre 2020. La Maison des Reporters était arrivée deuxième du prix francophone de l'innovation dans les médias, porté par RFI, Reporters sans frontières et l'Organisation internationale de la francophonie. Comment se porte la Maison des Reporters?
Elle se porte bien, elle avance sur ses projets. Notre deuxième année d'existence était placée sous le signe de la consolidation. Je pense qu'on y travaille. On a marqué une petite pause juste après les publications annuelles qu'on avait fait paraître en fin d'année. Mais maintenant, on est en train de travailler sur différentes enquêtes et on a aussi lancé la deuxième édition du magazine des reporters qui sortira en fin d'année.
Alors, on va y revenir dans tout ça. Peut-être pour que les gens aient une idée de ce que c'est la Maison des Reporters, peux-tu nous dire comment est-ce que cela fonctionne et combien il y a de journalistes membres de la Maison des Reporters au Sénégal?
La Maison des Reporters, c'est un média collaboratif. Il compte une centaine de membres, totalement 112. Nous sommes 112 répartis à travers le Sénégal. Il y en a quelques-uns également qui sont basés en France. Donc, c'est un média qui fonctionne grâce à ses abonnés, grâce aux dons de ses abonnés, et qu'on a lancé en septembre 2019. C'était une nouveauté dans le paysage médiatique. On nous disait que cela ne pouvait pas prospérer, mais en tout cas, ce qu'on arrive à réaliser, c'est la preuve que, voilà, on peut y arriver. Ce n'était pas évident quand même au tout début, parce qu'il y a un problème de culture vis-à-vis de ce type de médias et vis-à-vis de ce modèle économique. Parce que le modèle économique, on l'a pensé pour pouvoir nous donner les moyens de notre indépendance, en quelque sorte, parce que si on identifiait que les conflits d'intérêts pouvaient peser sur la liberté éditoriale des journalistes et qu'on voulait se dédier à l'enquête et au grand reportage, c'est pour ça que dès le début, on s'est donné les moyens d'avoir des moyens qui ne compromettent pas notre indépendance, du temps pour mener à bien nos investigations et la sacro-sainte liberté pour pouvoir nous consacrer à nos sujets.
Alors, on va revenir sur tous ces sujets-là. La Maison des Reporters produit des contenus écrits, audio, vidéo. Il y a un goût du multimédia, goût aussi du long cours, des grands formats. Pourquoi ce goût-là?
Parce que cela manque beaucoup au paysage médiatique. C'est un constat qu'on avait fait dès le début. Très souvent, il y a un certain bruit médiatique qui se fait sur plusieurs sujets, notamment sur des polémiques politiques. Mais malheureusement, on n'arrive jamais à aller jusqu'au bout des sujets qu'on évoque dans la presse parce qu'on ne les traite pas assez. Et c'est pour cela que la Maison des Reporters s'est positionnée dans ce sens-là. Donc nous, on produit du contenu décalé, original. Notre credo, c'est de faire en sorte que pour chaque sujet qu'on traite, arriver en tout cas à cerner le maximum Ce sont des sujets d'ailleurs qui sont intemporels, parce qu'à chaque fois qu'une polémique renaît et qu'on a travaillé sur le sujet, on peut ramener notre article ou notre production réalisée dans ce sens-là. On s'est aussi inspiré d'un média comme Les Jours, par exemple, par rapport aux séries. Donc on a des séries sur la corruption, sur l'environnement, sur les industries extractives. Soleiman, par exemple, est très axé sur ce plan-là. Et donc on essaie de faire du contenu vraiment approfondi et qui soit surtout utile à l'opinion publique sénégalaise.
La question, c'est aussi de voir qui va écrire ces articles-là. Et donc, pour ça, eh bien, vous avez des journalistes membres, donc un réseau de journalistes, à la fois qui peuvent vous proposer des sujets, mais aussi que vous pouvez solliciter. Comment jonglez-vous avec ces deux dimensions-là ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui sollicitez des journalistes ou est-ce qu'au contraire, on vous propose beaucoup, beaucoup de choses et qu'il y a une envie qui vient de la part de différents journalistes sénégalais ?
Voilà, c'est un effort mutuel, hein, parce que je dirais même qu'il y a beaucoup plus de propositions qu'il y a d'initiatives, par exemple, qui sont lancées. Il nous arrive parfois de dire qu'on souhaite travailler sur un thème, on cherche à avoir des journalistes qui seraient intéressés par le sujet et ils se signalent. Mais même avant cela, il y a les propositions qu'on reçoit également de la part de ces journalistes-là. Et d'ailleurs, la Maison des reporters, c'est le cadre idéal pour eux parce que très souvent dans nos médias, puisqu'il y a un effectif qui est assez réduit et qui ne permet pas de travailler sur des sujets, ou bien ils peuvent se poser des problèmes d'indépendance éditoriale, ils peuvent se tourner vers la Maison des reporters, proposer le sujet. Et là également, nous, à notre niveau, on finance et on encadre ces sujets. Le journaliste, ils sont d'ailleurs pour la plupart affiliés à des médias. Hein. Il est basé à Saint-Louis, à Kédougou, à Dakar, dans une des régions du Sénégal. Il a un sujet sur lequel il veut travailler. C'est un sujet transversal qui touche à plusieurs régions. Il peut nous contacter pour nous dire qu'il souhaite travailler sur ce sujet. Et nous, on le met en rapport avec d'autres journalistes qui sont dans notre base de données. Donc ça peut fonctionner. Tout comme on peut avoir une thématique comme par exemple la corruption dans un secteur donné. On a des journalistes qui sont spécialisés sur le sujet et on les interpelle. S'ils sont intéressés, on les met en rapport pour qu'ils puissent travailler ensemble. Donc au-delà de cela également, il y a des journalistes qui sont beaucoup plus expérimentés, qui permettent d'encadrer les reporters qui sont pour la plupart jeunes, hein, dans le cadre de leur travail. Pour certains, c'est d'ailleurs peut-être parfois leur première enquête ou leur premier grand format. Donc voilà, c'est un travail journalistique et aussi un travail d'apprentissage qu'on effectue dans la Maison des reporters.
Donc c'est à la fois un média et aussi une école, avec l'idée qu'il y a un comité éditorial qui encadre les producteurs d'informations, les journalistes, et qu'il y ait du contenu qualitatif qui soit produit.
Voilà, c'est justement ça l'idée. Arriver aussi à promouvoir l'enquête parce qu'on a trouve peu dans nos médias, arriver aussi à ce qu'ils comprennent comment s'y prendre, par exemple, lorsqu'ils veulent travailler sur un sujet qui peut leur prendre du temps, comment gérer le temps qu'il leur faut, comment gérer leur déplacement, comment rationaliser voilà, les moyens qu'il faut. Tout cela aussi, on leur permet de l'apprendre à travers la Maison des reporters. Je pense que ça marche plutôt bien.
Tout à l'heure, quand vous disiez qu'il y avait des journalistes qui travaillaient dans des médias établis au Sénégal, qui vous contactaient pour vous proposer des sujets, comment les patrons de presse sénégalais perçoivent la Maison des reporters, justement ?
Globalement, bon, peut-être certains que je connais ont quelque peu douté du modèle économique de la Maison des reporters, de sa viabilité. Certains ont voulu se lancer là-dessus, ont désisté ou bien estiment que le Sénégal, en tout cas le public sénégalais, n'est pas prêt pour ce type de médias. Ça, on a eu des échos de ce genre au début. Mais je pense que bon, petit à petit, on s'impose dans le paysage médiatique. Surtout qu'on est très jeune. Moi, je suis sorti de l'école en 2018. C'est vraiment un média de jeunes et qui se veut aussi un média sérieux. Donc, parce qu'on nous disait également qu'on ne pouvait pas réaliser ça sans avoir beaucoup d'expérience. Et je pense que, à force d'avoir le sens de l'écoute et d'être accompagné aussi par des journalistes qui ont fait leur temps dans les médias, on fait en tout cas notre part du boulot.
Quand on lance un média, on se pose toujours la question du business model, de savoir s'il y a un marché, s'il y a des lecteurs, si on va réussir à au moins équilibrer les coûts par rapport à ce projet-là. Et vous, dans la démarche de la Maison des reporters ici au Sénégal, l'idée c'est de sensibiliser les Sénégalais, le grand public, à la valeur de l'information. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez expérimenté un modèle de financement participatif. Vous êtes parmi les premiers, si ce n'est les premiers à faire ça au Sénégal, avec l'idée d'avoir un abonnement plus symbolique qu'autre chose, un abonnement à 600 francs CFA, un peu moins d'un euro par mois. Pourquoi ?
C'était parce que, déjà, je le disais par rapport à la réflexion sur le modèle économique qui serait le plus idéal pour le travail qu'on voulait effectuer. Donc, on ne pouvait l'avoir qu'à travers ce type de modèle-là, parce que ce qui est intéressant dans ce modèle économique, c'est que lorsqu'on a un public qui contribue, on ne sait pas qui contribue parmi ce public-là le plus ou bien qui est-ce qui voilà, tient les rênes financières du média. Donc on est redevable qu'envers le public et ce public il est hétérogène, il a plusieurs centres d'intérêt. Donc nous, de notre côté en tant que journaliste, on ne se consacre qu'au travail de journaliste, on essaie d'être le plus professionnel possible. Et c'est un contrat de performance entre nous et le public parce que le public veut du journalisme de qualité. Nous, on se propose de proposer du journalisme de qualité. Donc, si on ne le fait pas de notre part, ça peut se ressentir financièrement par rapport aux moyens qu'on a pour se consacrer à nos productions. Donc, c'est aussi cette relation qui fait que, voilà, on pense qu'au journalisme, en tout cas, nous, en tant que journalistes, et le public aussi, il tire le profit de s'informer en plus grande qualité.
Et ce qui n'est pas évident pour vous aussi, c'est la faible bancarisation et le fait que ben, pour faire payer les gens, là, ce que vous leur proposez, du coup, c'est de payer même par téléphone mobile.
Voilà, voilà. Parce qu'au début, ça a été très, très difficile, par exemple, lorsqu'on effectuait la levée de fonds, parce qu'on avait des cartes qu'on vendait symboliquement, mais pour pouvoir recevoir l'argent, il fallait se déplacer, remettre la carte et reprendre l'argent. Il y avait un certain coût par rapport aux frais de transport et tout. Et c'était inaccessible aussi à ceux qui étaient à l'étranger dans la diaspora ou un peu plus à l'intérieur du Sénégal. Donc ça, c'était un problème qui s'est posé, surtout pour la première année. Ça a été un blocage pour la première année. Mais heureusement, pour cette année, on a eu la chance de voir émerger des innovations technologiques du côté surtout des plateformes de paiement, ce qui nous permet d'avoir de collecter des paiements, par exemple, de masse. Des abonnements mensuels surtout, par exemple, on a pu le mettre en place pour cette deuxième année d'existence de la Maison des reporters. Mais ce n'était pas évident. Donc, on ne pouvait pas se baser sur la bancarisation. On en avait besoin, mais on ne pouvait pas se baser sur la bancarisation. Donc, on pouvait plus faire focus sur le mobile money. Donc, heureusement, grâce à cette plateforme-là, on arrive à agréger différents moyens de paiement et ça permet d'être un peu plus accessible au public sénégalais. Aussi, à la diaspora qui également contribue le plus, si je peux dire ainsi, donc avec le moyen de paiement bancaire ou voilà, d'autres moyens de paiement aussi qui sont disponibles. Là également, on leur permet de contribuer à nos productions.
La dernière fois qu'on s'est parlé, Moussa Ngom, il fallait à la Maison des reporters 3000 abonnés pour que le modèle soit viable. Combien d'abonnés avez-vous maintenant ?
Actuellement, malheureusement, on en compte environ 300. 300 abonnés, donc ce n'est pas un objectif qu'on a pu atteindre, malheureusement. Donc on est obligé de faire avec les moyens du bord, et je dirais peut-être qu'on se débrouille un peu mieux, parce que par exemple, pour la première année, nous n'avions pu produire que 23 enquêtes et grands reportages. Bon, pour cette année, par exemple, on a doublé le nombre de productions, on n'en est pas au mois de septembre. En tout cas, on arrive à le faire, surtout à travers l'effort volontaire des journalistes surtout, parce qu'ils se serrent la ceinture pour travailler. Ils y mettent même parfois leurs moyens pour réaliser leurs enquêtes ou leurs grands reportages et ils rationalisent vraiment toutes leurs dépenses. Donc, je dois dire qu'on doit beaucoup à la volonté des journalistes de voir émerger ce média-là parce qu'ils y trouvent voilà, leur compte. Mais on essaie aussi petit à petit parce que c'est un modèle qui est nouveau, c'est un modèle qui contraste avec la gratuité de l'information qu'on peut avoir ailleurs. Donc c'est petit à petit qu'on peut engranger plus de donateurs pour soutenir les productions du média et je pense qu'on pourra y arriver petit à petit. En tout cas, c'est vraiment une course de fond, comme j'ai l'habitude de le dire. Ce n'est pas maintenant qu'on peut évaluer le média. On peut se donner des objectifs, on a de très grandes ambitions, mais on est obligé de faire avec les moyens qu'on a petit à petit et je pense qu'on se débrouille plutôt bien.
Jusqu'à présent, vous vous êtes refusé à recevoir des financements internationaux, des dons de grandes organisations, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez continuer ou au contraire essayer de diversifier vos sources de revenus ?
Oui, c'est quelque chose qu'on veut continuer, mais on veut aussi se lancer dans la diversification des revenus parce qu'actuellement, en tout cas, on a un projet, je parlais d'apprentissage, on espère pouvoir faire en sorte que les activités de formation s'inscrivent dans ce que fait la Maison des reporters, histoire de diversifier les revenus. Mais pour ce qui est des grandes donations et des financements, l'idéal, c'est surtout par rapport au modèle économique, parce que le challenge, ce serait plus de montrer qu'un tel média peut s'imposer au Sénégal. Parce que le modèle économique qui existe actuellement, qui dépend beaucoup de la publicité ou des subventions de l'État, c'est un modèle qui est désuet et qui pose beaucoup de problèmes aux journalistes, notamment en termes de liberté. Donc il faut qu'on ait le courage d'innover. Et puisqu'on se disait qu'innover ne marcherait pas, il faut aussi que la Maison des reporters donne un exemple de réussite qui puisse pousser les autres à se lancer là-dessus. Je pense que ça fait un peu des émules parce que parfois, il y a quelques médias qui se lancent dans le participatif en faisant appel à leurs abonnés et tout. Je pense qu'il fallait avoir le courage de le faire. Et aussi, il faut avoir le courage aussi de tenir un tout petit peu histoire de vraiment bien expérimenter ce modèle. On en est à moins de 2 années d'existence et je pense que c'est un peu trop tôt pour abdiquer. Parce que les financements qui peuvent provenir de grandes organisations, ce sont des financements qui auraient pu couvrir 10 fois plus que ce qu'on a pu engranger depuis le début et ce qu'on arrive à réaliser. Je pense que c'est vraiment ce qui fait le charme de la Maison des reporters. Et ce ne serait pas intéressant de l'effacer maintenant.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voulez avoir une démarche de totale transparence, c'est-à-dire que vous publiez vos comptes.
Voilà, on publie nos comptes. Et ça, c'est aussi pour donner l'exemple. Parce que malheureusement, même ceux qui font des recherches sur les médias au Sénégal n'arrivent jamais à avoir des données, ni sur le nombre de tirages journaliers, ni même pour la presse, en tout cas écrite, ni même sur les finances des médias. Récemment, on a eu aussi d'autres problèmes avec les subventions étatiques par rapport à la transparence, parce que les subventions qui ont été accordées, on ne sait ni sur quels critères, ni même sur ni quel montant a été attribué à quel média et pourquoi. Donc c'est un problème de transparence générale pour ce qui est des médias. Et on ne peut pas être journaliste, vouloir être chante de la transparence et ne pas soi-même respecter cette transparence. Donc c'est pour cela que nous, on n'a aucun problème à publier nos finances chaque année. Et c'est aussi l'occasion d'échanger avec le public et aussi de renforcer la confiance que le public a en nous. Parce qu'on peut se poser la question de, voilà, si je contribue, où est-ce que va partir mon argent, etc., etc. C'est aussi pour dissiper ce genre de doute, qu'on est vraiment totalement transparent sur tout ce qu'on reçoit et tout ce qu'on a comme financement.
Tout à l'heure, vous disiez que la Maison des reporters, c'était un média composé de jeunes journalistes, très souvent. Et le public, eh bien, que vous touchez, est aussi composé de jeunes. Finalement, vos abonnés sont très jeunes. Quelles sont leurs attentes actuellement en matière d'information, à votre avis ?
C'est surtout de l'information qui soit la plus complète possible, qui leur permette de comprendre ce qui se passe. Parce que je le disais, il y a beaucoup beaucoup de bruit dans l'écosystème médiatique. Parfois, ils ne se retrouvent pas avec des tonnes d'informations qui n'en disent pas plus sur l'histoire qu'ils aimeraient apprendre ou bien qu'ils aimeraient connaître. Et nous, on se propose, à travers une production de 26 minutes ou bien à travers une série de reportages, de leur permettre de savoir un peu plus de ce qui se passe. Par exemple, on parle d'importation de déchets plastiques, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça arrive au Sénégal, qui l'utilise, qui l'a importé, tout cela. Nous, notre credo, c'est d'arriver à ce que ce public-là puisse mieux s'informer, mieux comprendre les enjeux de la société, mieux comprendre comment ça fonctionne dans les rouages du pouvoir, entre autres.
La Maison des reporters, c'est un site internet, mais c'est aussi un magazine. Là, vous lancez le 2e numéro du magazine des reporters. Cette année, c'est sur la santé au Sénégal. Eh bien, on se doute pourquoi, c'est en raison de la pandémie de coronavirus. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce magazine ?
Dans ce magazine, on va trouver beaucoup plus d'enquêtes sur le système sanitaire au Sénégal. On sera encore plus déployé dans toutes les régions du Sénégal, comme on a pu le faire pour l'année précédente avec le foncier. Donc c'est une édition qui sera aussi plus accessible en ligne, parce qu'on mettra en avant une formule numérique.
Alors c'est ça, 3 000 francs CFA, donc 4,50 euros pour la précommande en version numérique, et 5 000 francs CFA, un peu moins de 8 euros pour le papier.
Pour le papier, voilà, pour la version physique. Donc pour la formule numérique, on pourra avoir la combinaison de toutes nos productions dans tous les formats, directement sur le site, et à un prix vraiment très accessible pour le contenu qui sera proposé. Parce qu'on a déjà fait toutes les réunions qu'il fallait par rapport au plan de travail, par rapport au sujet à définir. Là, actuellement, les journalistes sont chacun sur son sujet, chacun sur le terrain pour réaliser sa production.
Il y a un format aussi qui est important pour vous, c'est la clé USB. Expliquez-nous l'importance de la clé USB.
Oui, la clé USB est le tirage physique du magazine. Pour la visibilité, c'est intéressant, surtout pour le tirage du magazine écrit. Il y en a qui sont très attachés au papier, donc c'est aussi pour les satisfaire qu'on a sorti ce volet-là et qu'ils puissent aussi se conserver. Parce que ce sont des productions qui sont vraiment intemporelles. Par exemple, la question du foncier, on en a fini, nous, depuis 2020, mais jusqu'à maintenant, c'est un sujet qui est d'actualité, qui revient toujours. Et nos productions sont toujours aussi sollicitées par rapport au sujet qu'on a eu à évoquer. Donc c'est un peu pour l'idée de la conservation, l'idée de la pérennité qu'on a vraiment songé à rendre ça en format physique.
Mais un contenu numérique comme ça en PDF ou sur une clé USB, du coup ça circule et vous ne gagnez pas forcément toujours d'argent dessus. Si les gens se le repartagent entre eux, ça ne vous gêne pas ?
Pour la clé USB, ça ne pose pas trop de problème parce que ce sont en tout cas de grands formats. Par exemple, pour la vidéo, très souvent, ce qu'il est possible de faire, c'est de la mettre en ligne sur YouTube, par exemple. Sauf que sur YouTube, nous, on avait déjà uploadé les vidéos. Donc, pour les droits de propriété, on on a la primauté. Maintenant, pour le tirage physique aussi, on a fait en sorte de conserver une certaine confidentialité. Jusqu'à maintenant, le PDF du magazine n'est pas disponible. En tout cas, il n'est pas partagé sur les groupes WhatsApp, jusqu'à ce qu'on le mette en accès libre sur notre site. Donc, le magazine, on a pu le tirer en version physique, on a pu l'écouler majoritairement, jusqu'à ce qu'on mette en accès libre il y a quelques semaines de cela. Il n'y a pas eu de fuite, heureusement. Donc, voilà. Donc, c'est... Maintenant, pour cette année, on va avantager la formule numérique et faire en sorte que les amoureux du papier puissent aussi avoir de quoi tenir, en tout cas, pour cette édition.
Les informations ici au Sénégal circulent beaucoup via WhatsApp, justement. Ça peut être un canal de diffusion pour vos contenus, la Maison des Reporters, WhatsApp ?
Oui, WhatsApp, c'est un canal très, très intéressant. D'ailleurs, on avait des idées par rapport à des podcasts qu'on pourrait mettre en place sur WhatsApp. C'est à l'idée de réflexion, mais on ne tardera pas à le faire. Mais en tout cas, c'est un très bon canal parce que le plus tôt on arrive à adapter ça vis-à-vis des habitudes de consommation, surtout pour les plus âgés, plus on atteindra beaucoup plus de monde parce que c'est un outil beaucoup plus accessible aux Sénégalais. Ils sont tout le temps sur WhatsApp, ils sont tout le temps dans les groupes, surtout familiaux. Et ça a d'ailleurs posé beaucoup de problèmes par rapport à la désinformation. Mais WhatsApp, c'est vraiment un outil très intéressant, en tout cas que nous, on espère explorer très bientôt.
Est-ce que des outils comme TikTok ou des applications comme TikTok, par exemple, ça pourrait être aussi un terrain d'expérimentation pour la Maison des Reporters ?
Oui, TikTok, c'est un très, très bon exemple, hein. C'est un très grand vivier, parce que je pense que pour la viralité de certaines vidéos, TikTok, ça marche plus que toute autre plateforme. Et surtout que c'est un terrain, pour le moment, qui est vague par rapport aux médias qui y sont. Voilà, on avait constaté, en tout cas, pas mal d'audience qu'on avait pu engranger grâce à TikTok. C'est vraiment une application très intéressante, en tout cas, que moi, je recommande très souvent, hein, pour ceux qui me demandent des conseils. Donc, on est déjà là-dessus. Et je pense qu'on encourage tout le monde à y aller parce qu'une vidéo d'une minute, ça, une telle audience qu'on peut observer sur TikTok, ça vaut le coup en tout cas d'essayer et d'adapter ses contenus.
Merci Moussa Ngom, fondateur de la Maison des Reporters au Sénégal. Plus d'informations, c'est sur lamaisondesreporters.com. À bientôt.
À bientôt, Stéphane.
Vous écoutez toujours l'atelier des médias de RFI depuis Dakar, au Sénégal. Moussa Ngom m'a confié qu'il souhaitait accentuer l'aspect formateur de la Maison des Reporters. Ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur la formation des journalistes au Sénégal. Du coup, j'ai changé de quartier. Je suis cité Cœur Gorgui, où se trouve l'EJICOM, l'École supérieure de journalisme, des métiers de l'Internet et de la communication. Je vais y rencontrer son directeur, Amadou Tidiane. Monsieur Tidiane, bonjour, comment allez-vous ?
Oui, bonjour. Vous enregistrez avant de dire bonjour ?
Eh bien voilà.
Bonjour.
Alors c'est l'atelier des médias de RFI. On est ici en reportage à Dakar et on va à la rencontre de journalistes, de producteurs d'informations. Et puis, on s'est dit que vous étiez une personne incontournable à venir voir. Donc c'est pour ça que nous voici ici dans les bureaux de l'EJICOM. Alors déjà, peut-être avant de commencer, je vais peut-être commencer par vous présenter, si vous le voulez bien. Vous êtes un journaliste sénégalais chevronné. Vous avez débuté votre carrière dans des grands médias internationaux, notamment l'AFP, la BBC. Vous avez fondé Westaf.com, un média d'information qui a notamment participé à des grandes investigations internationales comme les Swiss Leaks, comme les Panama Papers, avec le consortium international des journalistes d'investigation. Et là, ici, on est à l'EJICOM, une école que vous avez créée en 2011. Expliquez-moi pourquoi avoir-vous décidé de créer une école de journalisme.
La première raison, c'est justement parce que vous avez mentionné Westaf. Quand les jeunes stagiaires venaient de l'école, des écoles de journalisme de Dakar, demander des stages, parfois je leur posais certaines questions basiques qui faisaient que je ne les retenais pas. Juste deux, trois petites questions. Parfois, questions de culture générale, parfois, questions de connaissances fondamentales sur le journalisme, parfois, juste questions d'attitude. Donc, il y avait un peu ce désir de contribuer à une amélioration de l'écosystème des médias. La même chose qui m'a conduit à créer Westaf, disons, c'est le prolongement de ce rêve-là, de ce désir de contribuer à l'écosystème des médias. Parce que je dis souvent aux gens, oui, tout le monde critique les médias, mais que font les gens pour les médias ? Donc moi, ma réponse en tant que journaliste, en tant que quelqu'un qui a tout eu par le journalisme, tout entre guillemets bien sûr, je me dis, je ne peux pas accepter qu'on dénigre les médias et que les professionnels des médias eux-mêmes dénigrent les médias, mais ne contribuent pas à apporter des réponses. Donc l'école, comme Westaf pour moi, ce sont des réponses aux critiques qui sont formulées contre les médias, contre les journalistes.
Et ça passe par de la transmission.
Ça passe par de la transmission, ça passe par des échanges. Je crois que quand j'ai créé l'école, j'ai toujours dit ce que je voudrais, c'est que ce soit un creuset où l'on réfléchit sur le journalisme. Pas seulement on enseigne le journalisme, où on réfléchit sur le journalisme. Et ce n'est pas pour rien que 6, 7, 8 ans après, on est aujourd'hui l'école ou l'institution au Sénégal qui décerne les prix les plus couvus dans le journalisme au Sénégal. C'est un peu ce désir-là de dire que le journalisme, oui, ça s'apprend, mais ça se pense, ça se réfléchit. Nous voulons faire partie de cette réflexion-là.
Il y a une autre école de journalisme qui est très connue ici à Dakar, dont vous êtes d'ailleurs diplômé, c'est le CESTI. Pourquoi avoir-vous voulu faire une autre école et peut-être, j'ai ma petite idée, que l'idée c'était de faire une école un petit peu plus moderne, puisque d'ailleurs dans l'intitulé de l'EGICOM, il y a l'idée d'Internet.
Je suis très fier du CESTI. Je dis toujours, c'est mon école. L'EGICOM, c'est mon bébé. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. Pour moi, c'est une complémentarité, c'est un ajout. Je crois que le CESTI fait bien ce qu'elle fait. Nous, quand on venait, c'est avec la flexibilité de l'opérateur privé, mais c'est aussi avec l'expérience de quelqu'un qui a fait les médias internationaux, qui s'est dit que ce parcours-là, c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Ça me fait plaisir aujourd'hui qu'un journaliste de l'EGICOM soit en train de travailler à la BBC. Donc, il est en train un peu de suivre les traces. Donc, je crois que c'est pas parce que le CESTI ne fait pas bien ce qu'il fait, mais je me dis, il y avait de la place pour une autre école, surtout que, rappelez-vous, de 2011, on était peut-être une décennie après l'entrée dans le monde de l'Internet. Tous les gros changements dans le monde des médias qui s'opéraient, qui continuent de s'opérer, que nous continuons d'observer, il fallait, dans la formation des journalistes également, apporter cette dimension-là. La convergence technologique qui était en train de changer le métier. Vous êtes formé au CESTI, vous êtes un très bon journaliste. Les preuves existent, pas uniquement à travers ma personne, mais énormément de journalistes brillants sur ce continent sortent de cette école. Mais j'étais sûr qu'il y avait quelque chose que moi je pouvais apporter à partir de mon parcours, à partir de ma perception des médias, à partir de la réflexion que j'avais déjà très tôt sur la manière dont l'Internet va façonner le journalisme.
2011, c'était aussi l'année des printemps arabes, du début des printemps arabes, et puis les réseaux sociaux commençaient à façonner la façon dont on faisait du journalisme. Justement, comment est-ce que les formations au journalisme, ici, à l'EGICOM, ont évolué depuis 2011 ? Est-ce qu'il y a des nouvelles filières, des nouvelles façons de faire les choses ?
Nous, dès le début, on a intégré TIC, réseaux sociaux, médias sociaux dans le cursus. Ce n'était pas un atelier, un petit séminaire ou une option.
C'était tronc commun.
C'était dans la formation. De la même manière que vous faites votre cours d'initiation au traitement et à la collecte de l'information, que vous faites, je ne sais pas, votre cours de technique de reportage, je ne sais pas moi. Le cours de TIC, réseaux et médias sociaux, il était là dès le début. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont dans cette école. De la première année à la troisième année, ils ont des cours qui tournent autour de l'Internet. Que ce soit des cours pratiques pour les niveaux licence, que ce soit des cours au niveau un peu plus conceptuel, un niveau master. Il y a cette dimension de l'Internet dans la formation. Que ce soit sur les cours de droit, droit des TIC, gouvernance de l'Internet, mais aussi des choses beaucoup plus pratiques, beaucoup plus pragmatiques. Community management, journalisme en ligne, etc. Le multimédia, ça c'est des choses qui sont dans l'ADN de cette école.
Y a-t-il des débouchés suffisants, justement, pour ces étudiants qui sortent que vous avez bien formés, que vous avez sensibilisés aux usages du numérique, etc. Trouvent-ils facilement du travail ici, au Sénégal ou dans la sous-région ?
Je dis tout le temps, et c'est curieux, je ne le dis pas pour vanter mon école, aucun étudiant diplômé de cette école ne chôme. C'est la réponse que je vous donne. Donc, les gens trouvent du boulot. Dans certes, vous me direz qu'on n'est pas totalement dans le journalisme, dans le community management, mais je crois que nous, on forme à des savoirs. On prépare les gens, on leur donne du savoir. Après, il peut ne pas travailler dans un journal, il peut ne pas travailler dans une radio, il peut aller faire autre chose. Il y en a qui sont dans d'autres secteurs. Il y en a un qui me disait qu'il est dans une structure de transfert d'argent. C'est lui qui gère les réseaux sociaux. Bah, il a trouvé du boulot. Il n'est pas devenu journaliste, mais il a eu les savoirs autour des métiers de l'Internet qui lui permettent de s'insérer dans la vie active. Donc non, je crois que c'est une bonne option. La preuve, chaque jour, y compris aujourd'hui, je peux vous montrer des échanges, si on termine pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose que j'invente. On nous demande, oui, est-ce que vous avez des jeunes qui ont une bonne maîtrise des réseaux sociaux et que nous pourrions employer aujourd'hui ?
Y a-t-il des spécificités à l'enseignement du journalisme ici sur le continent africain ?
J'en discutais avec une collègue du Cameroun qui voulait me dire que oui, elle pense qu'on doit repenser l'enseignement du journalisme. Moi, j'ai une vision universelle du journalisme. Quand je dis une vision universelle du journalisme, je pense, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule manière de faire le journalisme. Je crois que dans chaque pays, et selon les pays parfois, on peut avoir des différences d'approche. Sur quoi je mets de l'intérêt, je me dis, voici, ce n'est pas la même chose que le monde diplomatique. Plus ou moins, les deux font du journalisme. Et pourtant, c'est certainement des gens qui sont formés dans les mêmes écoles de journalisme en France. Les uns finiront à Voici, les autres finiront au monde diplomatique. Pour moi, c'est essentiellement ça. L'idée de faire du journalisme, je crois, c'est cette transmission de l'information pour l'intérêt du grand public. Ça, je crois, on peut au moins s'entendre sur ça. Maintenant, après, le plus, qu'est-ce qui fait que... Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est le plus beau métier du monde. Et ce qui fait que c'est le plus beau métier du monde, c'est des marqueurs comme Watergate. C'est des marqueurs comme Panama Papers, auxquels j'ai eu le plaisir de participer. Je crois que c'est ça qui fait la beauté de ce métier. C'est de se dire, je suis utile à ma société, je suis utile à ma communauté. Soit parce que j'ai réussi à attirer l'attention des autorités sur le fait que dans telle région du Sénégal, il manque des classes et que l'année prochaine, on budgétise pour qu'il y ait des classes là-bas. Ça peut être sur quelque chose de beaucoup plus grand, de moins local, de moins localisé, de plus important, comme par exemple un projet comme les Panama Papers qui avait une résonance mondiale. Mais je crois, le fond, c'est ce qui fait le journalisme, l'essence du journalisme, pour moi, c'est ça, c'est de désir, à travers l'information, de participer à la construction des sociétés, de participer à la transformation des sociétés. Ça, je crois que pour moi, c'est cela. Après, la manière de le faire, je crois que ça changera d'une personne à l'autre, d'un organe de presse à l'autre, d'un pays à l'autre, mais le fond reste le même.
Man le dit, Boudundu Gis, depuis grand yoff, represent Reptile Music. Boy, Bunda rappeur, Boumak, tech, chi lucide. Le futur, Khama Goma, I'm the new shit.
Mais pourquoi, Adip?
Wachal, Sama Noni, ne parena. Sama vrai nom, ouais, c'est Dominique Pereira. Debi, Ibi, Pebi, my maître, bi jungle, baby. Dip, je sama tour, le juge, non, du takale, du pémi.
Ok, allez, wach, nous tous ici, ce début carrière. Ah, nous le tout, c'est rapide, quoi?
Dama yag bëgg rap xawma sax kañ la dalé rap depuis ba may xalé la ko fowé sama galé mam bañ may woylo ay son wu dara djék bi yes ni fi ñëko netté dal ka def xam nga rek ki ñi
yes
mais 2009 lay soga yegg ni dina nek rappeur
exactement
2009 lay bindu texte rappeur 2011 lay dajé Saudi King ñu formé team ma créé dundu gis ba 2012 ñu dem Reptile Music
aha légui yow boy wax ko wax wa légui wax ba yow lan mo la duggal ci rap
yeah lima duggal ci rap sum kay wax tay du jeex men dañuy yemb rek si luddul ma sa deñ men marozik dem los paris saint germain Rosic Demlos Park des Prince Men aka Omar Barry lima dougal si rap yeah joine si lu beuri kolam la ndek freestyle si ay bitu sonnerie galem la dan bin des textes yag tankal tantami lolou fale ko ma wax ko ndax nonou la fa demé rap rek xam li nessi man ak nan la koy genné lolou ma si dougal te lolou rek ma si bay c'est do sama life ak ñimay get everybody fuck you fuck clip fuck jeez fuck money yeah rap real showbiz deuxième le man.
Mais yo, le mot bouillie, quoi. Mais maman, non, donc, d'or le son, gars, parce que y'a un bouillie. Yo, qui n'est qu'à tiens, parce que sans vouloir, y'a un nec qui te voit que t'as le doigt le nez.
Non,
taxi rapini, mais man, tout le monde. Yo, l'autre, c'est rapide, quoi. Man, en bonne vision, que c'est un quoi.
Rap galsen. Dafa nek mbir mu jaxaso te lu jaxaso bo si duggé dalay jaxassé mais du téma joxé point de vue ci interview bilé game bi demul té gis nañ crew yu né dañ lay def rappeur bu mak té amo album gis na fi 20 ans de rap ben album dañuy wax duñu job fi moy gal sen moy ñi boy di roy stylo gangster de lève di xaar té ñi télé duñ fi juggé international laaj na lenen ludul bi game boko sama MCs ak sama DJ game bi lay tal ak sama essence sama briquet.
I. Tout à l'heure, j'étais à la maison des reporters rencontrer Moussa Ngom, qui a une initiative média sur le numérique avec l'idée de faire payer les citoyens pour de l'information. Que pensez-vous de cette initiative et y a-t-il d'autres initiatives médias actuellement au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest qui ont attiré votre attention?
Oui, ça fait partie des je crois que j'en ai parlé avec Moussa, que c'est quelque chose à féliciter. Je crois que c'est sa génération, c'est un peu ce qu'il pouvait faire, vu le contexte. Je crois qu'il y en aura d'autres. Malheureusement, ici, les médias, on reste encore un peu statiques. Les gens restent encore dans le modèle radio, télévision. Mais ce qui est sûr, j'ai vu des médias citoyens qui émergent. Quelqu'un qui crée sa chaîne YouTube. C'est des choses qui existent. Lorsqu'on lançait Westaf, il y a 15 ans maintenant, on est des pionniers parmi la presse en ligne. C'était le pari, c'était quoi ? On peut faire du journalisme, rester indépendant en étant en ligne. Juste le pari. Le seul pari, c'est juste je suis en ligne. Ça me coûte moins cher, c'est des opérations légères, c'est des choses qui me permettent d'exister. Après, qu'il y en ait, bon, je n'ai pas répertorié, je n'ai pas fait une cartographie, c'est une question qui me vient comme ça. Mais je suis sûr qu'il y en a et qu'il y en aura davantage, plus on avance, et que les gens sentiront ce besoin. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait le répondant du public. Et ça, je crois que c'est un peu le défi de nous, en tant que journalistes africains, c'est ce défi de nous ouvrir au public, aux communautés, de nous rapprocher des lecteurs, des internautes, des téléspectateurs, etc., etc.
C'est des choses dont vous parlez avec vos étudiants, justement, de leur demander de s'intéresser au sujet du quotidien, de ce qui se passe en bas de chez eux ?
Absolument. Ça, je crois que n'importe quel... quel prof de journalisme dans une école de journalisme en parle. Après, c'est comment cela se traduit, et puis quelle est la réalité dans les organes de presse où ils vont travailler. Si vous êtes dans un organe de presse qui s'intéresse à des conférences de presse institutionnelles, forcément, même si vous avez le flair, petit à petit, c'est quelque chose qu'on tue. Mais je crois qu'il y a des journalistes qui font. Je vous ai parlé des prix que nous organisons. Ces prix ne sont décernés qu'à des journalistes qui font du travail de terrain auprès des communautés, pas des gens qui font du journalisme de desk ou des gens qui font du journalisme à partir de conférences de presse.
J'aimerais qu'on parle maintenant des Infox, puisque vous avez joué un rôle déterminant dans l'introduction et la promotion de la vérification des faits en Afrique francophone. Et ici, à Logicom, eh bien, vous avez un partenariat avec Africa Check, dont la version française est ici, dans les locaux de votre école. Expliquez-nous l'importance de ce rapprochement physique même.
Bon, l'important, c'était quoi ? Quand j'ai lancé l'école en 2011, je vous disais, moi, je voyais le journalisme en train d'évoluer. Et c'est peut-être parce que j'avais une chance, j'étais très connecté au monde des médias anglophones. Je voyais ce qui se passait, surtout aux États-Unis, au niveau de certains centres, ce qui se faisait. Je voyais ce qui se faisait, justement, avec Africa Check, au niveau de l'Université de Wits à Johannesburg, où j'ai eu la chance de vivre en Afrique du Sud. Donc je voyais les changements. Et en Afrique francophone, malheureusement, je voyais qu'on restait, on traînait un peu derrière. Donc première chose, j'ai découvert Africa Tchèque, un petit mail, et puis c'est parti comme ça. Je leur ai dit, mais écoutez, ce que vous faites, ça me paraît intéressant. C'est quelque chose que j'aurais aimé enseigner à mes étudiants, surtout que je leur parle d'autres manières de faire du journalisme. Cette école a été la première à faire un atelier sur le data journalisme en Afrique francophone. Africa Tchèque, cette discussion avec le directeur de l'époque, Peter Canliffe Jones, a permis de nouer un partenariat. Et à ce jour, Africa Tchèque est ici. Importance, pourquoi ? Parce que d'abord, pour moi, l'information, ça a toujours... Je dis, le journalisme, ce n'est pas de la science. Mais la rigueur qu'on demande aux bons journalistes, elle est scientifique. Non, je le dis sans prétention, mais avec sérieux. Je le dis avec beaucoup de sérieux. Et je me dis, c'est ce qui croit justement que le journalisme est facile, qui pense qu'il s'agit de tendre un micro, c'est justement parce qu'ils n'ont pas compris ce travail. Ce ne sont pas ceux-là qui vont dire que c'est le plus beau métier du monde, s'ils pensent que c'est tendre le micro. Non, il est beau, il est fascinant, c'est à partir de... Il y a bien sûr un côté un peu talent, un peu artiste, mais il y a un côté un peu... rigueur intellectuelle, un peu démonstration, un peu la vérité, cette recherche de la vérité vraie. Même les Français qui n'aiment pas la répétition disent c'est la recherche de la vérité vraie. Je crois le fact-checking, ça nous permet, un, de nous réapproprier notre métier, de montrer que dans ce métier, il y a des choses que oui, quelqu'un qui a juste son micro, sa tablette ne pourra pas faire. Ah non, vous ne pouvez pas faire du fact-checking avec ça. Ça nous permet de montrer notre utilité sociale en tant que journaliste, oui, parce que quand tout le monde véhicule de fausses informations, on peut démontrer que non, ce n'est pas de l'information, c'est de la fausse information. Et après, à partir de ce moment, notre apport à la démocratie devient encore plus fondamental. Parce que pourquoi le fact-checking aujourd'hui est important? Quand je parlais avec les gens d'Africa Tchèque, 2012-2013, avant qu'ils ne viennent s'implanter à Dakar, en Afrique francophone, on n'en parlait pas du tout. Il a fallu 2015, l'élection américaine, les histoires de Brexit, pour que les gens commencent à se dire « mais tiens, il y a quelque chose sur ces histoires d'infox ». Et donc ça, le rôle de l'information dans la démocratie, dans la construction des sociétés, avec à l'opposé la possibilité de laisser les gens être manipulés par tous et n'importe qui. Donc voilà pour moi l'enjeu autour du fact-checking.
Et donc, en tant que journaliste, il faut faire preuve de détermination. Vous êtes aussi vice-président de la CENOSO, la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. Cette notion-là d'investigation, elle est cruciale, fondamentale. Et ce qui manque parfois, eh bien, ce sont les moyens. Comment voyez-vous l'avenir, justement, sur les années, la décennie qui vient en matière d'investigation journalistique dans cette région du monde ?
Quand les gens parlent de moyens, je crois, je dis tout le temps, les capitalistes nous ont eus en nous ayant fait croire que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Moi, je dis le nerf de la guerre, c'est l'humain, c'est l'être humain, c'est le cerveau. L'argent, le nerf de la guerre, il est fabriqué par le cerveau humain. Il a été inventé par le cerveau humain. C'est peut-être une extrapolation. Non, je crois, oui, la question des moyens, des ressources, c'est vrai, on n'en aura jamais suffisamment. Prenez les plus grands médias du monde, BBC, CNN, il faut qu'ils fassent des choix. On se réveille le matin, c'est des choix éditoriaux. On parlera de ça, on laissera tomber ça. Je crois aucun journaliste et aucun journal au monde ne peut dire que je vais parler de tout, y compris si on vous donnait tous les moyens du monde. Vous ne le pourrez pas. Donc je crois que c'est des choix qu'il faut faire. En se rassemblant, les journalistes de la sous-région, je crois, ils fédèrent, mutualisent leurs ressources. Ils peuvent faire des projets collaboratifs. Je crois, on a parlé de Panama Papers, on a parlé de SwissLeaks. C'est des projets qu'on a faits sans grandes ressources. La ressource qu'on avait, c'était des gens déterminés à aller jusqu'au bout de l'enquête. Moi, je dis l'investigation, plus que les ressources financières, ça demande des ressources humaines. Ça demande un journaliste engagé, quelqu'un qui dit ce sujet... il m'intéresse, j'irai jusqu'au bout. Parfois, ce n'est pas une question d'argent. Bien sûr, l'argent est important, ne serait-ce que pour se réveiller, prendre le bus, aller quelque part. Mais je crois, en créant un déterminisme autour de l'argent, on inhibe le potentiel des journalistes. Moi, je dis aux journalistes, non, le nerf de la guerre, c'est vous, c'est nous, c'est les humains, c'est l'homme.
Aux jeunes qui nous écoutent là et qui rêvent de devenir journalistes, qu'est-ce que vous voudriez leur dire ?
C'est un beau métier. de ne pas le voir juste comme un tremplin, comme la plupart des gens. Pour moi, les meilleurs journalistes, ce n'est pas ceux qui interviewent les chefs d'État chaque matin. Il y a cette phrase que j'ai ramassée dans mon parcours, je ne sais plus où, de quelqu'un qui disait « Les meilleurs d'entre nous, les journalistes s'entendent, ce sont ceux qui savent parler à ceux qui n'ont pas d'attaché de presse. » Et toute la richesse du journaliste, c'est cela. Ce sont les rencontres, ce sont les voyages. C'est de pouvoir parler avec le même respect de la dignité humaine avec un mendiant, un oublié sur le trottoir, comme avait dit, je crois, votre président, et un chef d'État. Je crois, si on arrive à transcender, être devant le chef d'État, oui, j'irai avec ma tenue correcte, avec le respect que je lui dois, mais je le vois juste comme un être humain, une source d'information, quelqu'un qui a quelque chose à dire. De la même manière, je vais le mendiant, je termine avec le président, je vais chez le mendiant, ou chez, je ne sais pas, un clochard, dans la rue, qui dort dans la rue, mais je lui parle avec le même respect, la même humilité, le même besoin de raconter l'expérience humaine. Je crois que c'est cela que j'aurais à dire. C'est ayez ce rêve-là de traiter l'humain, de raconter des histoires humaines. Ça, je crois, c'est un peu ce que je dirais aux plus jeunes. Vous ne serez peut-être pas riche en milliards, mais vous serez riche de vos rencontres, vous serez riche de vos expériences humaines. C'est un métier à embrasser si on le comprend comme l'avait compris Gabriel Garcia Marquez. Et je reviens à cette formule, bien sûr, si on rêve d'exercer le meilleur métier du monde.
Before the MC, there was the jelly or griot. A product of West Africa, jellies have for centuries served as repositories of oral tradition and history.
C'était Amadou Tidiansi, le directeur de l'EGICOM, l'école supérieure de journalisme des métiers de l'Internet et de la communication à Dakar, au Sénégal. Avant de se quitter, place à Mondo Blog Audio, qui donne chaque semaine à entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI.
Bonjour, je me nomme Marietou Marie Soumaré et depuis Dakar, j'aimerais vous parler de féminisme. Pour essayer de montrer que le féminisme n'a pas sa place ici, au Sénégal, beaucoup d'hommes sénégalais sont prêts à vous dire qu'ils ont des sœurs, une mère, une épouse, donc qu'ils n'ont rien contre l'épanouissement des femmes. Mais celui qui viole une fille innocente n'a-t-il pas une mère à la maison, une sœur? Il n'y a donc jamais eu de fillette sortie de l'école par son père pour la marier de force à un de ses vieux amis? Ces hommes qui réduisent leurs femmes en esclaves n'auraient jamais eu de sœur ou une mère? Les femmes elles-mêmes ne font-elles pas mutiler leurs filles? Vous répondrez évidemment à l'affirmative. Donc, je ne m'attarde plus sur ces arguments. Vous êtes nos sœurs, nos mères, nos épouses. On ne vous veut aucun mal en vue d'étouffer le féminisme. Je me rappelle, sur un plateau de télé, un célèbre enseignant voulait faire culpabiliser des femmes violées en direct. Ou encore, quand un vieux misogyne qui pollue l'audiovisuel demandait qu'un test de virginité soit fait dans les écoles pour vérifier l'état des mœurs. Et avec tout ça, on ose nous dire que la société sénégalaise respecte énormément la femme et donc aucun mouvement féministe n'y a sa place. Je vois qu'une certaine tendance pousse souvent une bonne partie des Sénégalais à parler de féminisme adapté aux valeurs culturelles sénégalaises. Mais qu'est-ce que cela veut-il vraiment dire? Si selon ces valeurs, une fille doit être excisée pour ne se soucier que du plaisir de son mari et oublier le sien, je me demande bien de quel semblant de féminisme parlent ces gens. Si selon ces mêmes valeurs culturelles, une fille violée par un proche parent doit garder le silence pour la réputation de sa famille, je me demande encore de quel semblant de féminisme ils parlent. Je pense que le féminisme n'est en effet rien d'autre qu'une question d'humanisme. Il faudrait un minimum d'humanisme pour militer pour le durcissement des peines pour viol et pour pédophilie. Le Sénégal n'y est arrivé que récemment grâce à des manifestations en 2020. Un minimum d'humanisme suffirait pour revendiquer la transmission automatique de la nationalité de la mère à l'enfant, encore problématique dans certains pays. Les inégalités salariales entre hommes et femmes pour les mêmes activités professionnelles sont contraires aux valeurs de justice. Les inégalités entre hommes et femmes sont encore plus grandes et plus profondes. Elles doivent être combattues par toutes et par tous. Ce n'est pas demain que l'on nous fera arrêter de défendre les idées féministes.
Mondoblog.fr blogueurs.org.
Et sur mondeblog.org, vous retrouverez les articles de centaines de blogueurs et blogueuses francophones de RFI. C'est la fin de cette émission, enregistrée fin mai à Dakar, au Sénégal. Merci à Simon Decreuse qui était du voyage et a assuré la réalisation. L'Atelier des médias est disponible en version longue sur les sites et applis de RFI et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Addict, TuneIn ou encore Apple Podcast. Si vous aimez cette émission, donnez-nous la note maximale sur ces applications et postez des commentaires, cela nous permettra d'être visibles et donc encore plus écoutés. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.